Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Alors aujourd'hui, un épisode sur un outil d'audit Active Directory qui s'appelle ADMiner avec son créateur Jean-Michel Bernard. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Étienne Ladan.
Bonjour.
Paul Amar.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et Hervé Schauer.
Bonjour.
Alors Jean-Michel, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, alors donc Jean-Michel Bénard, je suis depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la cybersécurité. Et actuellement, je travaille chez Grant Thornton où je suis associé en charge des activités d'audit et de conseil en cybersécurité.
ADMiner, ça fait quoi? Ça sert à quoi? Ça répond à quelle problématique, comme dirait Johan?
Alors, la problématique, c'est de trouver les vulnérabilités en environnement Active Directory. Donc, si je devais résumer l'outil, je dirais que c'est un outil à la fois d'audit et de contrôle continu des faiblesses qu'on peut trouver dans un environnement Active Directory, dont notamment les chemins de contrôle. Et puis, si je devais le résumer d'une autre manière, je dirais que c'est un outil qui permet de mieux exploiter les données qu'on peut avoir dans Bloodhound et d'en faire également une meilleure restitution. Et comme on parle de Bloodhound, ça veut dire qu'en fait, on s'appuie sur la représentation des données sous forme de graphes, qui est quelque chose, la représentation des données Active Directory sous forme de graphes, qui est quelque chose qui avait été introduit la première fois à STIC en 2014, et puis qui a été repris également dans Bloodhound que j'évoquais tout à l'heure. L'idée étant que voilà, on utilise la représentation en graphes plutôt que des listes pour trouver des chemins de contrôle et toutes sortes de vulnérabilités.
Mais pourquoi pas contribuer au développement de Bloodhound pour justement lui perfectionner cette fonctionnalité et faire un nouvel outil?
Je pense que ça serait pas forcément très évident. En fait, on a voulu qu'on contribue à SharePoint et Bloodhound. Alors, pour expliquer un petit peu, pour pouvoir utiliser Bloodhound, il faut avoir déjà collecté des données au sein d'un environnement Active Directory, chose qu'on fait avec un autre outil qui s'appelle SharePoint. Il y a d'autres outils que SharePoint que l'on peut utiliser. En fait, on a proposé des améliorations dans SharePoint, qui est l'outil qui permet de faire la collecte d'informations. Et puis, comme je disais, en fait, on a fait une proposition de changement de code, enfin d'ajout dans le code en mars 2023. Ça a été très bien accueilli par les mainteneurs du projet. Et puis, sans suite, on les a relancés. Et puis, en février dernier, ils ont finalement dit que bon, en fait, non, ça les intéressait pas tant que ça parce que ça créait pas de nouveaux chemins. Peut-être que le sentiment que j'ai, c'est que ils ont une certaine idée de la façon dont l'outil doit fonctionner et que ils n'étaient pas forcément nécessairement attachés à notre façon de représenter les choses. Mais en fait, en soi, c'est pas tant un problème que ça, parce que j'expliquerai après, c'est qu'on vient se plugger à la base de données qui est utilisée par Bloodhound et que quelque part, en fait, on est plus un outil compagnon en quelque sorte qui vient apporter des améliorations sans être dépendant des évolutions qu'il peut y avoir dans SharePoint et dans Bloodhound. Justement, en fait, on profite de ces améliorations pour rajouter des nouveaux contrôles.
Alors, les auditeurs qui veulent en savoir plus pourront regarder ta présentation à STIC 2024, mais est-ce que tu peux quand même expliquer ce que c'est qu'un chemin de contrôle, à quoi ça sert, éventuellement donner un exemple, qu'est-ce qu'on cherche exactement?
Attends, tu veux pas expliquer juste avant tout ce qui est... Parce qu'on est parti pleine balle dans la tech et dans des termes un peu compliqués. Je pense qu'il faut juste revenir un petit peu en arrière. Active Directory, c'est l'univers Microsoft qui est déployé partout. Dedans, tu as tes comptes utilisateurs, tes groupes, etc. Et tu as une telle complexité des droits que tu peux avoir un utilisateur qui appartient à un groupe, qui a un droit sur un serveur, qui a le droit sur un truc, etc., un enchaînement. Et donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la France, avec des gens à l'ANSI, a eu le génie d'identifier le fait qu'effectivement, ces chemins de compromission qu'avant, on faisait manuellement 1, 2, 3 sauts, mais après, ça devenait trop complexe humainement. Donc des gens à l'ANSI ont eu le génie de développer AD Control Pass, qui a été repris ensuite par les gens de Bloodhound pour développer cet outil. Et en fait, effectivement, t'as de la collecte de tout, les droits, etc., tous les utilisateurs connectés sur les machines, etc., qui sont mis dans une base de données graph, et à partir de là, Bloodhound est un autre outil qui va s'interfacer avec cette base de données graph, et tu lui mets des requêtes, tu lui dis « trouve-moi le chemin de tel point à tel point », donc le premier point, c'est un utilisateur basique, le dernier point, c'est potentiellement admin du domaine, donc les privilèges les plus élevés, et lui, il va te trouver les chemins de compromission dans ce graph.
Et ce, avec un simple utilisateur de l'Active Directory.
Oui, tout l'intérêt de la chose, oui.
Ben là, c'est moi qui vais être corrigé parce que le premier outil s'appelait BTA et il avait été développé par Airbus. Il n'avait pas été développé par l'ANSI.
Toutefois, les deux outils ont été présentés pour la première fois en 2014 au même stick, si je ne dis pas de bêtises.
Du coup, j'en reviens à la question sur les chemins de contrôle. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que c'est qu'un chemin de contrôle ou un chemin d'attaque et comment est-ce que comment ça arrive dans un domaine? Pourquoi est-ce que c'est pas sécurisé par défaut?
Alors, pour donner un exemple assez simple, on va imaginer que Madame Michu de la compta, pour des raisons qu'on ne sait pas trop expliquer, est administrateur local du serveur de la compta. Peut-être qu'on lui a donné ce droit à une époque et puis on a oublié de l'y retirer. Et que sur ce même serveur de la compta, on a, on va faire très simple, un administrateur du domaine qui est logué. Donc là, c'est vraiment un chemin très simple. C'est-à-dire que si on compromet le compte de Madame Michu, on va pouvoir, en son nom, aller sur le serveur que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel sera logué l'admin du domaine, et avec un outil ou un autre, récupérer les credentials, ou du moins se faire passer pour cet administrateur de domaine. Donc c'est un truc assez simple. Alors ça fait trois rebonds en l'occurrence, mais globalement, ça résume un peu l'idée. C'est de se dire, par où est-ce que je pourrais passer en tirant parti des différents droits dont je dispose parce que j'ai compromis un compte ou parce que j'ai compromis une machine, et par rebond jusqu'à où ça peut me mener.
Et du coup, ça prend la forme de signature, un peu comme un IDS ou un antivirus, ou est-ce que c'est quelque chose qui est codé dans le logiciel
En fait, c'est ce qu'on appelle des Rocket Cipher. C'est pas exactement comme du SQL, mais c'est une sorte de langage naturel qui s'en approche relativement. Dans lequel on va pouvoir dire, par exemple, partant de tel utilisateur ou telle population ou tel objet, etc., traversant des relations du type est membre d'un groupe, est admin de quelque chose, a une session, etc., etc., est-ce que finalement je peux me frayer un chemin jusqu'à atteindre tel objet ou tel groupe d'objets? C'est un petit peu comme si je disais je veux aller de Brest à Strasbourg en traversant uniquement des nationales, des départementales, et en calculant tous les chemins possibles, on va regarder s'il en existe qui me mèneront de Brest à Strasbourg.
Du coup, peut-être une question, c'est un outil qui est pensé pour être à destination des défenseurs ou des attaquants? C'est prévu pour des pentesters ou c'est prévu pour des équipes de défense?
Alors c'est prévu pour les deux, en fait. Bloodhound initialement est quand même beaucoup plus orienté pentest parce que c'est quelque chose qu'on va collecter des données en début de pentest pour constituer cette base. On va éventuellement rajouter que on a pu compromettre telle ou telle machine ou tel utilisateur pour voir depuis ces points-là comment est-ce qu'on peut avancer. Donc on reprend aussi cette logique de se dire voilà, c'est très intéressant en matière de pentest parce que je vais tout de suite pouvoir y voir beaucoup plus clair. Alors, je vais peut-être m'étendre un peu plus tard sur comment ça améliore l'expérience du pentester en quelque sorte, mais c'est aussi beaucoup pour compenser ce que n'apportait pas forcément Bloodhound pour une utilisation plus dans un cadre de ce qu'on appellerait du contrôle interne ou du contrôle continu qui vise à, sur un certain nombre de contrôles, du type qui est admin, est-ce qu'on a des comptes dormants, enfin voilà, aujourd'hui il y a une soixantaine de contrôles, de pouvoir suivre dans le temps si les choses s'améliorent ou éventuellement si des problèmes réapparaissent. Donc les deux populations, autant les bleus que les rouges.
Du coup, ça peut être utilisé en addition avec un ping castle, par exemple?
Tout à fait. Alors, idéalement, ce qu'on aurait bien aimé, mais c'est là où on arrive un petit peu aux limites que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'en fait, on a uniquement ce que Sharpand veut bien collecter. Dans un monde idéal, en fait, on aimerait bien faire tout ce que fait Pingcastle pour éviter d'avoir besoin d'un outil pour couvrir un morceau, un autre outil pour un autre morceau. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de contrôles qui existent. En revanche, on est vraiment dépendant de, comme je disais, de ce que Sharpand veut bien collecter pour pouvoir ajouter certains contrôles. D'où l'idée que j'évoquais tout à l'heure de, on a rajouté, je crois, une collecte à peu près d'une dizaine d'éléments dans la pull request pour Sharpand, qui aura permis de rajouter d'autres contrôles. Aujourd'hui, pour l'instant, ça c'est un peu statu quo sur ce sujet-là.
Juste un complément par rapport à Pingcastle, c'est que c'est une des volontés de Vincent d'avoir un outil qui soit très rapide à s'exécuter. Et justement, il limite aussi les contrôles, la complexité des contrôles, parce que ce qu'il veut, c'est que ça se fasse en quelques secondes, quelques minutes, et que ça ne prenne pas 2 heures à collecter et analyser. Et justement, tu parlais de Sharpound. Est-ce que vous avez envisagé de soit faire un fork, soit développer votre propre collecteur, puisqu'au final, il est open source?
Développer notre propre collecteur, je pense que c'est un projet très très ambitieux et il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Faire un fork, c'est aussi un autre projet ambitieux, c'est ce qu'on avait commencé à faire, mais en fait, c'est très dur à maintenir dans le temps, parce que en parallèle, Spectre Ops, qui est la société qui se trouve derrière Sharpland et Bloodhound, qui est la principale contributrice, fait constamment des modifications, et en fait on se retrouvait constamment avec des breaking changes, donc c'est un peu trop ambitieux. Donc sur ce sujet-là, c'est un peu le sujet sur lequel je ne sais pas trop comment résoudre la problématique, mais à terme, c'est peut-être ce qu'il faudra faire en devant subir à chaque fois tous les breaking changes, si on veut autant profiter des mises à jour de Sharpland que de celles que nous on apporte avec des nouveaux points de contrôle.
Donc là, on évoque la performance. Est-ce qu'on parle de l'architecture logicielle? C'est développé en quoi? Est-ce qu'il faut un cluster Kubernetes pour le faire tourner, etc.?
Alors, c'est développé principalement en Python, qui permet de faire toute la partie requête dans la base de données Neo4j. Ensuite, on a du HTML et du JS. Le JS et le HTML pour la partie frontale. Et si je devais un petit peu parler de... finalement, commencer à agencer d'un point de vue, ou commencer à architecturer d'un point de vue logiciel. En fait, vous avez l'habitude, si vous utilisez Bloodhound, on fait la collecte avec Sharpland, on utilise Bloodhound pour ingérer les données dans la base de données, et puis à partir de là, on peut utiliser Bloodhound pour faire des graphes, pour pointer des chemins d'attaque. Nous, dans ce cas particulier, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se connecter à la base de données. On va d'abord y faire pas mal de choses, comme du nettoyage, de choses qui vont nous gêner par la suite. On va rajouter des libellés à certains nœuds. On va recréer des relations qui existent, bien qu'elles ne soient pas créées par défaut. Et puis ensuite, on va venir requêter tout ça. Donc tout ce travail-là est fait en Python, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a une grosse analyse de données et qui a vocation ensuite à produire du code HTML statique. Et puis ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est en fait le parti pris, c'était de se dire si on fait, ça aurait été d'ailleurs beaucoup plus simple, si on fait quelque chose qui est dynamique, on s'appuie sur une base de données, ça nous fera moins de développement. En revanche, ça sera moins utilisable par quelqu'un qui veut lire le rapport sans avoir besoin d'installer un serveur web, une base de données. Donc en fait, on s'est forcé à faire toute l'installation, à générer tout le rapport en HTML statique en essayant de rendre le même confort que ce qu'on aurait sur une interface web, à savoir qu'il y a des endroits où on peut cliquer, ça arrive sur notre page, etc. Et donc pour revenir au langage, effectivement beaucoup de Python et enfin du JS pour essayer de faire une interface assez mignonne dans laquelle on peut interagir, bouger les graphes et avoir quelque chose de sympathique comme si on avait une application en mode SaaS par exemple.
Et vous l'avez testé sur des environnements conséquents? Tout à l'heure Vlad parlait là de effectivement un Active Directory avec plus de 100 000 utilisateurs. Est-ce que je veux dire c'est plutôt fluide? Comment c'est vous l'avez testé sur quoi comme type d'environnement?
Je pense qu'il faut parler du plus gros environnement qu'on a testé. Le plus gros, c'était de l'ordre de 50 000 utilisateurs et autant d'ordinateurs. J'ai pas eu l'occasion de faire plus que ça, mais je pense que 50 000, ça devient raisonnable. Le pendant, effectivement, d'avoir un gros environnement, c'est que les temps de calcul sont évidemment plus longs.
Bah là, par exemple, ça moulinait pendant combien de temps ?
Celle qui faisait 50 000, elle est en fait, elle date d'assez longtemps. En fait, c'était une base d'un client qu'on n'a pas pu garder pour la suite, qui date d'une époque où il n'y avait pas autant de contrôle. Donc peut-être que ça mettait une heure et demie ou deux, mais dans la version actuelle où il y a la soixantaine de contrôles, je saurais pas dire combien de temps ça prendrait parce que j'ai plus les données. En revanche, il y en a une que j'exploite assez fréquemment qui fait dans le 25 ou ouais, dans l'ordre d'idée, c'est 25 ou 26 000 utilisateurs. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 heures sur avec un Core i13 13900. Donc qui est un processeur relativement récent, et ce qui nous permet d'atteindre, en fait, dans une configuration normale, il faudrait plutôt une quarantaine d'heures pour faire tous les calculs. Donc ce que je n'ai peut-être pas expliqué, c'est qu'en fait, effectivement, puisque c'est du HTML statique, il va falloir en amont qu'on ait calculé tous les chemins possibles, enfin toutes les choses qui vont pouvoir nous intéresser, et qu'on ait généré toutes les pages HTML. Donc ça, c'est le pendant d'avoir voulu faire du HTML statique. L'avantage qu'on a derrière, c'est que quand on veut regarder un contrôle, ben, en fait, on a l'accès en immédiat, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas quand on utilise Bloodhound notamment.
Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur l'historisation. Ça fait partie des choses que vous apportez en plus. Il y a la pondération des chemins, il y a l'historisation. Et l'historisation, tu as une base en local pour justement gérer l'historisation, ou c'est dans Neo4j ou en plus tu rajoutes des champs d'historisation dès qu'il y a un changement et dès que tu réinjectes de nouveaux éléments collectés avec Sharpound?
C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, l'idée, c'est que si, imagine que tu lances une collecte tous les mois d'informations que tu ingères, etc., et que tu lances à des miners. En fait, quand tu auras fini l'exécution d'AD Miner, ça va te sortir un fichier JSON pour le mois en cours. Donc le mois suivant, tu rajouteras le suivant, etc. Et en fait, On dit juste, ben voilà le répertoire où j'ai stocké celui d'il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, et puis en fait, on vient lire tout simplement dans le fichier JSON les valeurs des indicateurs. Donc ouais, il n'y a rien de... Encore une fois, on veut pas de truc tant que possible qui soit dynamique.
Parce que c'est vrai que ça, c'était un truc qui est un peu chiant avec Bluedown, c'est qu'effectivement, quand tu fais ta collecte, tu la fais mensuellement, par exemple. Ça, c'est plutôt quand tu défends, effectivement, quand tu es administrateur système Windows, tu fais ta collecte, on va dire, de façon hebdomadaire ou mensuelle. Et après, pour faire la comparaison entre deux collectes, bah, c'est très chiant parce que ta collecte 2 remplace la collecte 1, la 3 remplace la 2, etc. C'est très compliqué d'avoir justement cette historisation et de voir les changements.
Et ça rejoint une question que j'allais poser, c'est du coup l'outil, donc on a parlé de qui se destine entre les attaquants et les défenseurs, mais au final c'est complexe ou pas à déployer, parce que est-ce qu'il me faut une équipe de 4 experts consultants sur un pentest déployé pendant un mois, ou est-ce que je peux prendre un stagiaire de première année d'école d'ingénieur et lui dire bon bah voilà, tu vas faire du AD Miner et on est bon?
Je pense que c'est plutôt la deuxième option, en fait, il n'y a rien de très compliqué. Si je fais abstraction de la partie où j'ai collecté des données, je les ai ingérées dans une base de données, qui est quelque chose que tout le monde a fait pendant un pentest, parce que nous, c'est notre point de démarrage. En fait, l'installation d'AdMiner, ça se fait avec un pip install, donc il y a zéro effort, ça vient tirer toutes les dépendances. Ensuite, on vient taper une ligne de commande dans laquelle on précise comme l'adresse de la base de données sur laquelle je vais me connecter, le port, le login, le mot de passe, et puis on laisse tourner le temps qu'il faut jusqu'à ce que ça produise le rapport en HTML statique. Il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de paramétrage particulier. Alors après, il y a quelques paramètres qu'on peut changer si on estime que la politique des mots de passe doit être à 3 mois ou à 6 mois parce que ça a un impact derrière sur le calcul et on ne veut pas laisser la valeur par défaut qui est de 3 mois. Mais au-delà de ça, il y a différents paramètres qu'on peut changer, mais tout ce qui est CT par défaut convient parfaitement. C'est pas rocket science, quoi.
Donc, à un moment, on a évoqué la pondération de certains nœuds. Enfin, est-ce que tu peux expliquer plus en détail comment tu fais pour, on va dire, favoriser certains chemins plutôt que d'autres?
Bah, peut-être avant d'expliquer ça, je pourrais juste expliquer comment ça fonctionne par défaut dans Bloodhound. Ce que va faire Bloodhound, c'est utiliser soit une fonction qui s'appelle shortSpace ou une autre qui s'appelle allShortSpace pour calculer ses chemins. Donc, en fait, c'est une fonction qui est dans les requêtes Cypher, dans les requêtes qu'on fait dans Neo4j. Et ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'on va toujours calculer le chemin qui prend le moins de rebonds pour atteindre la cible. Or, le chemin qui prend le moins de rebonds, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est encore une fois comme si je dois aller de Brest à Strasbourg. Le chemin le plus court, il faudra certainement passer par des chemins de forêt qui sont pas forcément ceux que j'ai envie d'emprunter. Il y en a d'autres qui peuvent être plus longs, notamment l'autoroute, et que j'aurais envie de favoriser. Et permettre cela, en fait, ce que l'on fait, en fait, on se base sur un papier qui est sorti en 2019 de Riccardo Ancarani, et dans lequel lui propose de mettre sur chacune des relations un poids. Donc c'est un petit peu comme si je disais une autoroute ça vaut 0, une départementale ça vaut 20, un chemin de forêt ça vaut 60. Et à la fin, je vais faire la somme de tous ces tronçons, et forcément, les coûts que j'ai mis vont influer sur le fait que je vais préférer l'autoroute au chemin de forêt. Et nous vont nous faire trouver des chemins qui donc ont plus de rebonds que celui qui aurait été trouvé par Bloodhound. Et l'idée dans tout ça, c'est qu'en fait, le chemin le plus court, si je reviens plus au scénario d'attaque, celui qu'on expliquait pendant le stick, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où il y a un chemin qui est très court, mais qui va nous poser de faire une annulation de privilège. Chose qui n'est pas infaisable, mais dont on se passerait bien s'il y avait moyen de s'en passer. Et fatalement, si on utilise la fonction shortSpace ou la fonction allShortSpace, en fait, ça cherche toujours le chemin le plus court, donc ça va nous cacher un chemin qui fait peut-être 1, 2 ou 3 rebonds de plus, et qu'on pourra simplement pas voir dans le résultat de la requête. Et d'un point de vue technique, pour implémenter ça, la fonction qui nous permet de faire ce calcul pondéré, elle n'existe pas dans Neo4j, donc en fait il faut rapatrier un plugin qui s'appelle GDS pour Graph Data Science. Et pour que ça soit pas trop pénible à installer, chose qu'on peut aussi retrouver dans les slides, en fait on a sur un autre repo GitHub un petit script en fait qui permet d'installer tout l'environnement Bloodhound en intégrant ce composant en plus, comme ça il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et après AdMiner, en fait, dès qu'il se connecte à une base de données, ce qu'il va faire, c'est de savoir si le module est installé. S'il n'est pas installé, il va faire la méthode classique ancienne. Et puis si le module GDS est installé, alors il fait ce mécanisme de chemin pondéré.
Trouver le chemin le plus facile par rapport au chemin le plus court, ça fait un peu outil d'attaquant.
Non, parce que pour moi, c'est là où il y a le plus de risques aussi, vu de la fenêtre de celui qui protège.
Voilà, c'est en fait le chemin qu'il faut protéger en premier.
Voilà, qui est peut-être pas plus évident dans les calculs par défaut, mais c'est effectivement celui qui est le plus à risque.
Vous avez bossé pendant longtemps, vous étiez nombreux pour développer tout ça ?
Si je mets tout bout à bout, c'est peut-être 2 ans et demi, mais ça a été de manière un peu empirique.
Bon, c'est peut-être une année homme, c'est ça que tu veux dire, ou 6 mois homme ?
Ouais, un bon 6 mois, peut-être même 1 mois. Ouais, enfin, il y a eu vraiment beaucoup de monde sur ce projet. Et puis, comme tout projet, en fait, ça s'est fait de manière assez empirique. Enfin, l'ambition au début, c'était pas de faire un truc aussi compliqué. L'ambition, c'était de répondre à des clients qui nous disaient, vous m'avez fait un test d'intrusion, mais il dit que j'avais, je sais pas, 1600 comptes dormants, 300 ou 1300 personnes qui sont admins de moyenne machine, etc., etc. Est-ce que vous pouvez me sortir les données? Parfois, qui nous demandent, sortez-moi la liste de mes admins du domaine. Alors, en fait, la première réponse qu'on pouvait avoir, c'était de se dire, mais c'est pas compliqué, vous faites 2 lignes de PowerShell, et puis. En fait, comme ça a l'air de répondre à un besoin, j'ai commencé à faire un script qui sortait ces données. Puis après, je me suis dit, ça serait mieux de le restituer, non pas en CSV, mais plutôt en HTML. Puis après, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de voir si on peut pas justement faire de manière graphique ces chemins. Sans doute qu'il y a une librairie JS ou une autre qui nous permettrait de le faire. Et puis, une fois que le proof of concept fonctionnait, j'ai mis un petit peu plus de monde de mon équipe hein, qui, dès lors qu'ils n'étaient pas occupés sur des missions, pouvaient travailler dessus. Et il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de temps passé dessus, pas forcément que du temps de boulot, d'ailleurs du temps perso aussi. Donc, j'ai jamais fait le calcul, j'ai pas d'outil d'imputation du temps passé sur ADMiner. Et c'est plutôt une année homme ou plus que ça encore. Là, parfois avec aussi beaucoup de choses qui sont parties à la poubelle, parce que, comme dans tout projet, on se lance dans un truc pour se rendre compte que tel truc ou tel autre truc était une mauvaise idée, et puis on recommence autrement.
Et peut-être du coup, pour continuer dans cette veine avec un exemple, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, sans citer de clients évidemment, mais de chemin à l'attaque dans un AD qui parlerait à tout le monde sans faire l'analogie avec les autoroutes?
Moi, il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est le cas de figure qu'on peut retrouver parfois en entreprise où on a des comptes machines qui sont admins locaux d'autres machines. Donc c'est pas un utilisateur qui est admin, c'est le compte local de la machine. On retrouve ça souvent quand il y a eu du Exchange qui a été installé, quand il y a eu du SCCM, parce que je pense que la repo d'une certaine époque, c'était de dire la machine SCCM, son compte machine doit être admin local de toutes les machines. Et ben ça ressort pas forcément de manière très évidente dans les requêtes qu'on a par défaut dans Bloodhound notamment. Je pense pas que ça ressorte vraiment dans d'autres outils d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un low hanging fruit, au sens où en fait tout ce qu'on a à faire, c'est... si c'est le cas de SCCM, par exemple, dire à la machine SCCM avec petit potam ou autre, viens te connecter chez moi, moi je vais relier ça sur une des machines cibles. Et ce qui est intéressant aussi dans la présentation qu'on donne dans ADMiner, c'est qu'on sait aussi anticiper, si tu arrives à compromettre cette machine d'une manière ou d'une autre, là, donc dans ce cas particulier avec ce qu'on appelle un relais, on sait déjà te dire si, in fine, tu finiras par devenir admin du domaine à la fin. Donc ça, c'est une que j'aime beaucoup et une autre que je pense que c'est intéressant de la mettre en avant parce qu'elle est difficilement représentable dans Bloodhound, même en faisant des requêtes hyper tordues si on est devenu un champion des requêtes Cypher. C'est le cas des GPO qui... on va prendre une GPO qui s'applique, on va prendre un cas un peu extrême, qui s'applique à tout le domaine, donc forcément à du tiers zéro, et qui est modifiable par quasiment tous les utilisateurs ou une bonne population des utilisateurs. Et j'ai déjà vu des choses, je sais pas moi, tous les membres du groupe Skype... allons savoir pourquoi, avait le droit de modifier une GPO qui s'applique à tout le domaine ou qui s'applique à des objets de type tier 0 et donc en fait qui offre une façon assez simple de compromettre le domaine.
Donc aujourd'hui, je comprends qu'il y a eu énormément d'investissements sur cet outil. Il est disponible où, sous quelle licence et qu'est-ce que vous attendez des auditeurs? Est-ce qu'on peut contribuer? Est-ce qu'on peut remonter des bugs? Je ne sais pas.
Alors, il est disponible, donc il est open source depuis septembre dernier. Il est disponible sur GitHub, je pense qu'on pourra mettre le lien dans la description. Ce qu'on attend, c'est effectivement s'il y a des gens qui peuvent l'utiliser, nous remonter des bugs, ça sera déjà énorme. S'il y a des gens qui peuvent faire des PR, comme j'en parlais au tout début, pour corriger les bugs ou apporter des nouveaux contrôles ou de nouvelles idées, écoutez, on sera ravis.
Et vous avez déjà une petite communauté? Vous avez combien de personnes là, qui l'utilisent activement ou qui contribuent au projet open source?
Alors, qui contribue au projet, si je prends l'équipe initiale, on est autour de 6-7 personnes. On a eu quelques contributions depuis qu'il est open source, donc depuis septembre dernier. Et le nombre de personnes qui l'utilisent, c'est difficile à mesurer. Enfin, ce que je regarde, c'est le nombre de personnes qui sont sur Discord, notamment. En revanche, là où c'était agréablement, enfin, où j'ai parfois été agréablement surpris, c'est qu'en fait, en parlant, soit des personnes qu'on croise à des cons cyber ou autres, en fait, finalement, les gens le connaissent. Et je ne savais pas trop mesurer l'impact que ça avait pu avoir de le mettre en open source, parce que les gens qui l'utilisent, ben, pas forcément le crier sur les toits. Mais en fait, on s'est rendu compte que, ben, en fait, il y a pas mal de boîtes de pentest où c'est régulièrement utilisé. Donc, je pense ça a eu un petit succès et c'est pas utilisé qu'en France, évidemment, puisqu'on a on a pas mal de personnes qui se connectent sur Discord pour finalement reporter des bugs ou poser des questions. Mais j'ai pas d'autres moyens que ça pour mesurer le.
Bah, tu parlais tout à l'heure justement en Python là, il y a pas des avec pip là, il y a pas nécessairement de statistiques là pour savoir combien de personnes ont fait des pip install ou ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la communauté de Blowdown qui est quand même massive pour le coup. Ça a été bien accueilli justement. Enfin, je sais pas si vous l'avez présenté, est-ce qu'ils ont un Slack ou un Discord là, mais enfin en tout cas, ils ont une communauté assez active. Vous en avez profité pour faire un petit peu de pub?
Alors, j'ai pas voulu forcément faire de la pub. J'ai dû en parler une fois sur leur Slack. J'ai déjà eu des likes des gens de Spectre Ops par rapport à ce que je postais sur Twitter, donc je pense que c'est pas resté invisible. Donc non, je pense que il y a différentes personnes un peu connues dans le monde de la cybersécurité, en particulier autour de l'Active Directory, qui ont un peu reposté les choses que j'avais postées sur Twitter. Donc je pense que c'est pas tout à fait passé inaperçu. Après, encore une fois, c'est difficile de mesurer l'audience, parce que les gens généralement se manifestent uniquement quand ils ont des questions ou qu'ils ont rencontré un bug.
Voilà, actuellement vous avez sur GitHub 930 stars, enfin 930 étoiles, ce qui est déjà plutôt pas mal.
Jean-Michel, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Non, je pense que le mot de la fin revient un petit peu à ce que je voulais dire tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à essayer l'outil, c'est pas du tout difficile à installer. Généralement, les gens sont très surpris, très agréablement surpris, et en particulier par la représentation graphique. Ce qui intéresse souvent les gens, c'est de pouvoir visualiser les chemins d'attaque de manière peut-être un petit peu plus jolie que ce qu'on a dans Blowdown, peut-être de manière un peu moins chargée. Et puis, ça a aussi un aspect, je trouve, éducatif pour les gens qui, je pense, bossent dans l'IT, n'ont pas nécessairement envie de corriger un truc ou un autre parce qu'il y a un auditeur qui a dit qu'il faut faire ce que l'auditeur a dit. Là, on arrive un peu plus à voir les conséquences de telle ou telle mauvaise pratique, et je pense que ça motive un peu plus, ça donne un peu plus de sens et peut-être un peu plus d'envie de corriger certaines mauvaises pratiques qu'on peut trouver.
Ouais, je pense que tu peux aussi préciser que l'autre adminer en un seul mot n'a rien à voir avec votre projet, c'est un projet PHP.
Là, c'est le nouveau nom de PHP MyAdmin.
En quelque sorte. Mais ça, on l'a appris à notre dépens. En fait, on n'était pas très doué pour trouver un nom pour le projet. On n'a pas de logo. On n'est pas très doué en marketing. Et effectivement, peu de temps après l'avoir sorti, on a compris qu'il y avait un autre outil qui n'avait rien à voir, qui s'appelait Adminer. Et il était un petit peu tard pour changer de nom, puis on n'avait pas vraiment de meilleure idée.
Bon, en tout cas, Jean-Michel, merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, les auditeurs pourront tout retrouver dans les actes du STIC 2024 ou sur le site web. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.